théologie mystique, sacerdoce du Christ par le père Philippe à Rimont le 21 février 1987.
Ça peut très bien se comprendre, mais ce n'est pas vrai. On est savoir la vérité à ce moment-là. Mais le sacerdoce du Christ, c'est le sacerdoce du Fils bien-aimé. Donc, c'est une perspective qui n'est plus une perspective humaine, qui est la perspective directement de la sagesse de Dieu. Alors, on voit bien ce qui est dit ici. Cette maladie ne va pas à la mort. On voit ce que ça veut dire, la seconde mort, puisque de fait cette maladie a conduit à la mort. Donc c'est la seconde mort, la mort de l'âme. La mort de l'âme, c'est le péché, c'est la révolte, c'est l'orgueil. Cette maladie ne va pas à la mort, mais elle est en vue de la gloire de Dieu, afin que par elle soit glorifié le Fils de Dieu. Donc, cette maladie permet une blessure telle que par elle, la gloire de Dieu, la gloire du Fils de Dieu, soit manifestée. La miséricorde de Dieu ne peut pas se manifester d'une manière aussi immédiate, d'une manière aussi profonde. c'est-à-dire une conduite très exigeante, une conduite de l'amour. La douceur, c'est pas l'amour. On confond. La douceur est une conséquence de l'amour. C'est bien évident que pour être doux, il faut aimer. Mais l'amour n'a pas qu'un seul visage. Et l'amour a ce visage de force initiée. Et ceci doit nous éclairer sur le mystère du sacerdoce de Jésus. Sacerdoce de fils bien-aimé. Jésus ne répond pas immédiatement à l'appel. Pourquoi ? Parce qu'il veut donner un regard sur la miséricorde du Père et sa propre miséricorde qui va beaucoup plus loin. Et c'est pour ça que cette maladie, il la laissera avoir ses conséquences normales qui conduisent à la mort pour par là glorifier. Glorifier le Fils de Dieu. Une fois qu'on a compris ça, on comprend tout le reste. Et on voit très bien l'attitude différente de Jésus et la miséricorde différente de Jésus vis-à-vis de Marthe et vis-à-vis de Marie. La manière différente dont Jésus veut dépasser le scandale à l'égard de Marthe et à l'égard de Marie. C'est curieux ce double langage. Parle pas de la même façon à un actif et un contemplatif. C'est deux langages différents. Et nous portons en nous l'actif et le contemplatif, hein. C'est bien évident. Mais de temps en temps, c'est le contemplatif qui est scandalisé. De temps en temps, c'est l'actif qui est scandalisé en nous. C'est pas le même. Et nous voyons que vis-à-vis de Marthe, même presque, j'allais dire, anti-psychologique. vous êtes en face de quelqu'un qui souffre, vous commencez à bâtir avec lui. Jésus, ton frère ressuscitera. Et Marthe répond, elle sait très bien répondre au niveau psychologique. Je sais qu'il ressuscitera lors de la résurrection, au dernier jour. Lumière théologale, lumière contemplative. Moi, je suis la résurrection et la vie. Donc c'est immédiat. Voyez, le sacerdoce du Christ est vertical, comme on dirait aujourd'hui. Horizontal, c'est dire dans l'au-delà. Le vertical, donc il est actuel. Et il montre comment l'éternité est présente dans le temps. C'est peut-être cela qui caractérise le sacerdoce du Christ. C'est de faire que l'éternité dévoilée, que l'éternité est présente dans le temps, que l'éternité est là présente, et que l'éternité est victorieuse de ce que représente la mort. C'est la mort qui nous fixe dans le temps. Là, c'est bien évident. C'est pour ça qu'on a si peur de la mort. Parce que ça nous fixe dans le temps. On est mort à tel jour, à telle date. Puis après, le temps est terminé pour nous. Et c'est vrai que le temps est terminé, l'histoire est terminée. Et on le sait très bien. C'est pour ça que les autres. Voyez l'autre attitude du sacerdoce du Christ à l'égard de Marie. Marie dit extérieurement à peu près les mêmes paroles. Il n'y a qu'un geste différent. La liturgie de Marie est différente. Il y a le geste. Marie tomba à ses pieds. Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Marthe avait dit quelque chose de très semblable. Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Je crois qu'il y a une intonation différente. Ça, j'en suis sûr. C'est pas dit. Donc c'est vous qui devez la trouver. C'est intérieur. C'est la prière. On dit quelque chose en prière. On dit quelque chose en dehors de la prière. On le sait très bien. Pour la résistance. récitation des psaumes, c'est la même chose. On le dit en prière, on le dit en dehors. C'est cette intention profonde, la parole comme telle, n'est pas une prière, mais la parole de Dieu suscite en nous une prière, éveille en nous une prière. C'est assez étonnant, hein, que Marthe et Marie disent la même chose, seul différent, c'est le geste. Et donc le geste s'accompagne d'une manière différente de dire les choses. Elle tomba à ses pieds. Jésus donc, quand il la vit pleurer, pleurer aussi les Juifs qui l'avaient accompagnée, gronda en son esprit et se troublant. Jésus n'enseigne plus, ne réveille plus. C'est pas la peine, la voix de Marie est très éveillée. Elle prie. Et Jésus est à l'unisson du cœur de Marie. C'est lui qui compatit à l'égard de la femme. Voyez les deux aspects du sacerdoce. Affirmer la présence de la résurrection face à la mort. Au moment de la mort, il n'y a que le sacerdoce du Christ qui peut dire quelque chose. Moi, je suis la résurrection. Et le sacerdoce du Christ peut dire aussi ce grand silence de compassion. Il gronda en son esprit et se troubla. Ah, je trouve ça très très fort pour pénétrer un peu dans le sacerdoce de Jésus. Face à ses deux sœurs, représentant les deux extrêmes du cœur de l'homme, du cœur de la femme. Vous savez bien que c'est en face de la souffrance que l'individualité psychologique de chacun d'entre nous se révèle le mieux. C'est pas dans la joie. Dans la joie, on peut chanter les Alléluia tous de la même façon. Dans la joie, on hurle tous de la même façon. Tandis que dans la souffrance, pas du tout. C'est la souffrance qui blesse et qui va jusqu'au bout, fait que les réactions sont totalement différentes. Celles de Marthe et de Marie, deux extrêmes du cœur de l'homme. Et face à ces deux blessures, toutes différentes, l'attitude différente de Jésus, du même sacerdoce. Je trouve ça très très fort pour nous faire comprendre ce que c'est que le sacerdoce du Christ à l'égard de la souffrance, à l'égard de la mort. L'intention générale, c'est qu'il se sert de la mort pour glorifier le Père. Mais la manière de glorifier le Père est différente à l'égard de la souffrance de Marthe et de la souffrance de Marie. Or, c'est dans le cœur de Marthe et de Marie que la mort prend toute sa dimension. Puisque Lazare ne souffre plus. Il est mort. Donc, c'est la mort du frère qui a deux tonalités totalement différentes. Et face à ces deux tonalités totalement différentes, Jésus, dans son sacerdoce, répond différemment. Mais c'est le même sacerdoce qui applique donc affirmer le primat absolu. De la... la vérité, le rappel de la vérité. Je suis la résurrection. Ou au contraire, l'union affective dans le silence. Un mystère de compassion. C'est Jésus qui apprend à Marie à compatir. Faut pas l'oublier. Jésus a compati avant. D'une façon tout à fait différente, mais il a compati avant. Et la compassion, c'est toujours dans le silence. Vous voyez, les deux aspects du sacerdoce, l'aspect de l'intelligence et l'aspect de l'amour. L'avez-vous mis ? On lui dit, Seigneur, viens et vois. Donc, cet amour qui l'unit dans le silence et les pleurs avec Marie, cet amour silencieux est source d'une efficacité immédiate. Alors que le rappel du mystère l'efficacité n'a pas besoin d'une efficacité extrinsèque, mais c'est une efficacité intérieure. Et c'est vrai, quand vous vivez en face de la mort de quelqu'un que vous aimez, le mystère de la résurrection, vous avez au plus intime de votre cœur une attitude victorieuse, divine, d'une victoire divine. Et Jésus parle aux morts en regardant d'abord le Père. Père, je te rends grâce de m'avoir exaucé. Donc une action de grâce. Moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais c'est à cause de la foule qui m'entoure que je parlais. Afin qu'il croit que c'est toi qui m'as envoyé. L'action de grâce de Jésus, c'est de remercier le Père. éclairer comme un signe ceux qui n'ont plus la foi aussi forte. Et ayant remercié le Père, Jésus donne un ordre. Du Christ. Vous voyez que le charisme ressuscité à mort, du charismatique, c'est quand même le plus grand des charismes à l'égard du corps. Donc à l'égard du charisme grisant, de ressusciter un mort. Ce n'est pas le premier charisme. Le premier charisme, vous savez bien, c'est le cerveau sapiens. Mais dans le charisme de guérison, c'est ce qu'il y a de plus élevé. On voit que ce charisme de guérison demande d'être enveloppé d'une prière d'action de grâce qui devant qui fait partie de l'action charismatique. impossible. Et vous voyez donc que le charisme est lié au sacerdoce. Au sacerdoce de Jésus au grand sens, c'est-à-dire pas au sacerdoce ministériel, au sacerdoce du Christ. Donc il est lié à la grâce chrétienne, en tant qu'elle est chrétienne, donc en tant qu'elle est sacerdotale. Parce que par le point de vue sacerdotal, on est responsable les uns des autres. Et parce qu'on est responsable les uns des autres, c'est normal que Dieu permette qu'il y ait sa toute-puissance au service de la miséricorde. Et alors là, ce discernement, je crois ça très important. Ce sont ces petites phrases, vous voyez, qui sont comme ça. Le mort sortit les pieds et les mains liés de bandes, et son visage était enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Donc, c'est très très fort pour entrer dans ce qu'il y a d'ultime à l'égard du sacerdoce du Christ. Sacerdoce qui dépasse la mort, qui n'est pas limité par la mort. Le sacerdoce du Christ dépasse là. Et le sacerdoce du Christ se sert de la mort pour aller plus loin dans la communication de la miséricorde. Alors comme toujours, il y a une petite herméneutique. Là encore, c'est important. Puisqu'il s'agit de comprendre les vraies et les fausses herméneutiques. Beaucoup de juifs donc qui étaient venus vers Marie et qui avaient vu ce qu'avait fait Jésus dans lui. Ça c'est les bons croyants. Pas d'herméneutique, pas besoin. La foi comme telle n'en a pas besoin. Ce sont les raisonnements d'à côté. Mais certains d'entre eux s'en allèrent trouver les pharisiens et ils leur disent ce qu'avait fait Jésus. Alors là, c'est pas une herméneutique, c'est le rapportage. Si Dieu nous permet d'être témoins de certains faits, c'est pour le glorifier, c'est pour l'aimer plus, c'est pour exercer davantage la charité. Mais on peut être témoin de certains faits pour tout de suite s'en servir. Mettre dans un niveau d'infériorité. Les grands prêtres et les pharisiens se réunirent donc, un conseil, et ils disaient, que faisons-nous alors que cet homme fait de nombreux signes? Donc, ils savent très bien le terrain miné et le fait de rapporter que Jésus a fait un miracle. Il a ressuscité Lazare. Et c'est pas n'importe qui Lazare. Alors ça met les grands prêtres et les pharisiens dans une situation toujours plus haineuse par jalousie. Si nous le laissons agir ainsi, tous croiront en lui et viendront les Romains qui détruiront notre lieu et notre nation. Donc c'est la crainte. On se sert de ça. Est-ce que c'est tout à fait pur comme crainte? J'en suis pas sûr. La jalousie se sert d'une quantité de choses. Et on peut très bien, par jalousie, colorer les motifs. Et je vous n'en tiens pas cela ici. L'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit, vous n'y entendez rien, vous, et vous ne réfléchissez pas qu'il vaut mieux pour vous qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation tout entière ne périsse pas. On n'a pas le droit de condamner un innocent pour sauver les autres. Politique machiavélique. le moyen de tout, c'est de sauvegarder la finalité. C'est ça. Et là, ils prophétisent ce que, hélas, la plupart des hommes font. Cela, il ne le dit pas de lui-même, mais comme il était grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Ça ne fait pas que sa prophétie est juste. Ça montre ce qui arrivera. Et là, c'est juste. Mais le contenu de la prophétie n'est pas juste. N'allez pas là ériger ça en un principe politique chrétien. Non. C'est le principe politique de Caïphe étant grand prêtre. Donc, il sait ce que c'est que le gouvernement religieux. Corruption optimi pessima. On voit très bien. La corruption de ce gouvernement religieux peut amener aux pires injustices. Ça arrive. On sait très bien. Il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et non pour la nation seulement, mais encore afin de rassembler dans l'unité les enfants du Dieu qui étaient dispersés. Dès ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. Donc la décision ultime, il faut le tuer, disparaisse. Jésus donc ne circulait pas ouvertement parmi les Juifs. Et de là, il s'enfuit dans la région proche du désert, dans une ville appelée Éphraïm. Et là, il séjournait avec les disciples. La Pâque des Juifs était proche, et beaucoup de gens montaient de la campagne à Jérusalem avant la Pâque pour se purifier. Ils cherchaient donc Jésus et se disaient les uns aux autres en se tenant dans le temple. Pensez-vous, ne viendra-t-il pas à la fête? Mais les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Si quelqu'un connaissait où il était, il devait parvenir afin qu'on l'appréhende. Il devait le prévenir afin qu'on l'appréhende. Donc l'agent souligne le climat de plus grande hostilité à Jérusalem et la décision. C'est important pour comprendre comment le sacerdoce de Jésus va s'exercer dans ce climat de lutte. Et que Jésus ne tiendra pas compte de ce climat. Mais là encore, prudence divine et prudence humaine. Dans une prudence humaine, on doit tenir compte d'un climat de lutte qui peut aller jusqu'à la mort. Dans une prudence divine, la prudence sacerdotale de Jésus, on ne doit pas toujours en tenir compte. La prudence divine peut exiger un héroïsme, et même souvent, elle exige un héroïsme. Mais un héroïsme lucide. Commence la dernière semaine au chapitre 12. Alors, Béthanie. L'onction de Béthanie. L'onction de Béthanie va nous faire découvrir encore un aspect du sacerdoce de Jésus très différent. Puisque, avec l'onction de Béthanie, nous entrons dans la grande kénose de Jésus. La kénose de l'état victimaire de Jésus. Jésus qui accepte de mourir par amour pour nous. Jésus donc, 6 jours avant la Pâque, vint à Béthanie où était Lazare. Donc entre la résurrection de Lazare et Béthanie, il y a ce temps tu as passé au désert, le désert d'Ephraïm. C'est pas très loin. Quand on a été sur les lieux, on s'aperçoit que c'est pas très loin. On voit bien ce que ça représente, ce désert qui n'est pas un vrai désert. Surtout actuellement, c'est plus un vrai désert. Du temps de Jésus, ça devait l'être plus. Puisque c'est nettement, il se met en dehors de Jérusalem tout en étant proche. Il ne peut pas s'éloigner. Puisqu'il sait bien ce qui doit se passer dans la dernière semaine. On lui fit donc là un repas. Marthe servait. Et Lazare était l'un de ceux qui étaient à table avec lui. Donc on nous montre qu'il est bien vivant. Il est ressuscité. Il a de l'appétit. Marie donc, prenant une livre de parfum de Frénard d'un grand prix. Il semble que c'était pas prévu. Il y a une espèce de spontanéité de Marie, je crois. C'était pas prévu. Ce geste liturgique. Il y a des gestes liturgiques qui sont pas prévenus, qui viennent du Saint-Esprit. Il faut faire attention. On va dire, moi, tout ce que je fais, c'est du Saint-Esprit, donc pas besoin de regarder la liturgie. Elle oignit les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. C'est l'avantage du parfum, si c'est pour tout le monde, vous voyez. Le partage est parfait, non ? Et rempli de l'odeur du parfum tous. Judas l'Iscariote, un de ses disciples, celui qui devait le livrer, dit : pourquoi ce parfum n'a-t-il pas été vendu 300 denier ? Nous avons vu la lutte, et nous voyons que la lutte va pénétrer au cœur des 12. Et donc va pénétrer dans ce repas d'action de grâce. Le repas de l'action de grâce demanderait, puisque c'est la reconnaissance, une paix, une joie, un au-delà de la lutte. Et au fond, c'est au cœur de cette action de grâce que nous allons voir cette brisure. C'est un moment très important, je crois, pour révéler ce qu'est Jésus. Parce que la parole de Judas, la critique de Judas, regarde le geste de Marie et la complicité de Jésus. Puisque Jésus a accepté que cette femme verse sur ses pieds ce parfum. Jésus aurait pu lui dire non, non, non. Refusez, arrêtez. Non. Il y a une complicité. Jésus pâtit et Jésus accepte. Donc Jésus est directement attaqué. C'est la femme. Et la femme entend qu'elle a versé ce parfum sur les pieds de Jésus. Judas Iscariote, l'un de ses disciples, celui qui devait le livrer, dit : pourquoi ce parfum n'a-t-il pas été vendu 300 deniers ? Qu'on aurait donné à des pauvres. Ça semble très raisonnable. On ne verse pas un parfum de 300 deniers comme ça, dans un repas. Un seul instant. Vous voyez ce que ça représente comme somme d'argent. Le denier représente le salaire d'une journée. Alors faites un petit calcul hein, pour voir ce que ça peut représenter aujourd'hui. Là, c'est une espèce de colère de Judas, hein, d'irritation de Judas, le dragon rouge-feu. C'est insupportable, Judas n'en peut plus. Alors, remarquez. marqué dans l'évangile de Jean, hein, depuis le chapitre 6, où Jésus a dit, au milieu de vous, il y a un démon, Jésus s'est tu. Judas n'a pas parlé ouvertement devant Jésus. Et si il parle ouvertement devant Jésus, et ça éclate. Au milieu de vous, il y a un démon, et là, le démon parle. Et c'est la parole d'un démon. Parce que c'est une parole qui provient d'une jalousie. Il y a quelque chose d'insupportable. D'une colère. Vous savez que les colères proviennent toujours quand tu es en présence d'une sorte d'injustice. Tu vois qu'on prétend être injustice. Et qu'on ne tolère pas ça. Et qu'on veut la rétablir. Pourquoi ce parfum n'a-t-il pas été vendu 300 deniers qu'on aurait donné à des pauvres? Il dit cela, non qu'il le soucie des pauvres, mais parce que c'était un voleur et que tenant la bourse, il emportait ce qu'on y mettait. La petite explication du théologien, tu vois. Ça a dû être glacial, cette parole. C'est le glaive. L'amour du Christ pour les pauvres. Ce qu'il y a de plus vulnérable dans le cœur de Jésus, c'est son amour pour les pauvres. Et Judas met en cause cet amour de Jésus pour les pauvres. Ça, c'est intolérable pour le cœur de Jésus. C'est terrible. Et c'est un des disciples. Je crois que... Vous voyez, c'est le glaive le plus douloureux. Dans toutes les luttes, on discutait de savoir si Jésus était avant Abraham, si Jésus était avant Jacob, avant Moïse. C'est, j'allais dire, ad intra. C'était les querelles de Jésus par rapport à la loi, par rapport à ceux qui avaient été les fondateurs du peuple d'Israël. Est-ce que Jésus est avant Abraham? Est-ce que Jésus est plus que Moïse? Ils sont des comparaisons à l'intérieur du peuple d'Israël. Ici, c'est une comparaison à l'égard de l'humanité. C'est les pauvres. Or, Jésus accepte tant de recevoir ce parfum, complice dans ce geste de Marie. Fait que les pauvres ne profitent pas. Donc il est complice et pleinement. Donc il n'aime pas les pauvres. S'il aimait les pauvres, il n'accepterait pas ça. Il ne ferait pas ça. Jésus dit donc, laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Jésus d'abord défend le geste de Marie. Il reconnaît que ce geste de Marie est un geste qui a toute sa signification liturgique, tout son sens. C'est un geste prophétique. Il annonce la sépulture. C'est car les pauvres, vous les avez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Jésus va donc montrer que ce geste prophétique, c'est à l'égard du pauvre. Et le plus pauvre de tous, c'est Jésus. Et donc, opposer les pauvres à Jésus, ça n'a aucun sens. Puisqu'il est le pauvre par excellence. Il est le plus pauvre de tous. avec la suprême pauvreté pour pouvoir dire en toute vérité cette parole que Jésus dit. Il faut savoir ce que c'est que la pauvreté. Et il faut comprendre qu'on est le pauvre. Il est le pauvre par son état victimal. Puisque dans le sacerdoce du Christ, la victime et le prêtre ne font qu'un. On peut dire qu'il est le pauvre par son état victimal. C'est en tant que victime d'amour qu'il est le pauvre. Et qu'il est le pauvre par excellence. Sacerdoce du pauvre. Donc, sacerdoce qui a un respect et un amour des pauvres. Et sacerdoce qui s'engage pour défendre la vérité du geste liturgique. Geste de Marie, condamné par Judas.